Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Nous allons nous préparer donc à écouter sa parole. Nous voulons demeurer dans cette attitude et continuer à laisser nos cœurs ouverts au Seigneur, cette fois-ci pour recevoir de lui ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Notre Père, nous voulons te remercier pour ce moment qui nous ont fait énormément de bien, Seigneur, pour ce moment qui ont été une véritable source de joie pour nous, puisque ce moment, Seigneur, nous ont permis de nous approcher de toi, Seigneur, de te louer, de t'adorer, de te chanter, toi le seul, l'unique Dieu véritable, toi qui n'as pas de semblable ni au ciel, Seigneur, ni sur terre, ni dans tout l'univers, tu restes unique et singulier dans ton être, Seigneur, mais aussi dans la manière d'agir, mais aussi dans tes merveilles. Merci pour tout. Nous voulons maintenant, Seigneur, te tendre une oreille attentive afin que tu nous parles. Oui, parle-nous ce matin. Dépose sur nos cœurs, ô Dieu, quelque chose qui vient tout droit de ton cœur. Dépose sur nos cœurs ta pensée, Seigneur, car il n'y a que ce qui vient de toi qui est, Seigneur, capable de nous transformer, de nous changer, Seigneur, et de nous rendre conformes à ton image. Tu sais combien, ô Dieu, nous languissons après une vie d'entière consécration à toi. Seigneur, une vie qui soit, ô Dieu, mise réellement à part pour toi et pour toi seul. Mais en même temps, Seigneur, combien nous savons cela est difficile, puisqu'il y a encore pas mal de choses dans nos vies qui empoisonnent notre existence. Il y a pas mal de choses, ô Dieu, qui nous asservissent, qui nous tirent vers le bas. S'il te plaît, ce matin, parle-nous. Et que ta parole puisse, Seigneur, ô Dieu, réveiller notre esprit, raviver notre intelligence. Que ta parole, ô Seigneur, puisse bâtir ton caractère en nous, afin que nous te ressemblions, ô Dieu, en toutes choses. Bénis cette parole, alors qu'elle va être proclamée par ton serviteur. Bénis ton serviteur, alors qu'il va proclamer ta parole. Et bénis ton peuple, alors qu'il s'apprête à la recevoir. Et cela au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien, je voudrais revenir sur notre thème de la fois dernière. Parler donc une fois de plus de ces deux périodes qui sont appelées à être des réalités dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur. Tant que nous serons sur cette terre, tant que nous poursuivrons notre route avec Dieu, tant que nous tendrons vers cette perfection, eh bien la Bible nous dit que nous aurons à rencontrer des moments que nous avons qualifiés, des moments ou des périodes Ichabod, en référence à cette période trouble, cette période sombre, cette période de confusion qu'a connue Israël à un moment bien précis de son histoire. Mais Dieu, dans sa fidélité, va donc permettre à ce peuple de prendre conscience, d'avoir une sorte de sursaut et de réaliser que tant qu'ils étaient dans cet état de culpabilité aux yeux de Dieu, eh bien, ils pouvaient demeurer dans ces tunnels ténébreux, ils pouvaient demeurer dans cette impasse pendant un laps de temps assez long. Et là, dans sa grâce, eh bien, il les a de nouveau accueillis. Et là, de Ichabod, ils sont entrés dans l'expérience d'Ebenezer. Alléluia. Jusque-là, le Seigneur nous a secourus. C'est un Dieu, mes amis, qui est prêt à nous secourir, d'une manière ou d'une autre, à nous faire sortir de la situation terrible, de la situation catastrophique pour certains, situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est un Dieu formidable. Pour cela, nous allons lire le texte que nous avons lu la fois dernière, à savoir 1 Samuel, chapitre 7, livre du prophète Samuel, son premier livre, puisqu'il y en a deux, chapitre 7, nous allons lire à partir du premier verset. Les hommes de Kiriath Yéharim vinrent et firent monter l'arche du Seigneur. Ils la transportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche du Seigneur. Il s'était donc passé bien de jours depuis le jour où l'arche avait été installée à Kiriath Yéharim, 20 années. 20 longues années, mes amis, sans la gloire du Seigneur. Quelle catastrophe! Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers le Seigneur. Samuel fit Dis à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers le Seigneur et servez-le lui seul, alors il vous délivrera de la main des Philistins. Et les Israélites ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, donc toutes ces idoles païennes, et ils servirent le Seigneur seul. Samuel dit, « Rassemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai le Seigneur pour vous. » Ils se rassemblèrent à Mitzpah, puisèrent de l'eau et la répandirent devant le Seigneur, car il fallait purifier aussi la terre qui avait été souillée par l'idolâtrie et par toutes ces pratiques abominables que Dieu reprouvait. Ils jeûnèrent en ce jour. C'est là qu'ils dirent, « Nous avons péché contre le Seigneur. » Samuel jugea les Israélites à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpah, et les ducs ou les princes des Philistins montèrent contre Israël. Les Israélites l'apprirent et eurent de la crainte devant les Philistins. Les Israélites dirent à Samuel, « Ne garde pas le silence, mais crie pour nous au Seigneur notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste, au Seigneur, il cria au Seigneur pour Israël, et le Seigneur lui répondit, Alléluia, gloire au Seigneur. Quand le juste reconnaît son état et qu'il se tourne vers le Seigneur dans un cœur, dans un esprit de repentance, quand il crie au Seigneur, le Seigneur finit toujours par répondre, Alléluia. Puisqu'il est fidèle, que Dieu soit béni. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. En ce jour-là, eh bien, le Seigneur fit retentir le tonnerre à grand bruit contre les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant, « Jusqu'ici ou jusque maintenant, eh bien, le Seigneur nous a secourus. » Ainsi, les Philistins furent humiliés et ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main du Seigneur fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël revinrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut la paix entre Israël et les Amoréens, donc tous ceux qui habitaient ce territoire qu'on appelait le territoire des Canaan. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, donc comme je le disais, je voudrais revenir un tout petit peu sur cette période sombre que nous avons qualifiée de Ichabod en référence à l'expérience d'Israël, une expérience douloureuse, une expérience terrible, puisque pendant 20 ans, mes amis, ce peuple va être privé de la gloire de Dieu. Et puisque la gloire de Dieu n'était plus au milieu de ce peuple, eh bien ce peuple avait perdu ce qui faisait sa valeur, ce qui faisait sa force, voyez-vous. Et par conséquent, ce peuple se retrouvait comme un peuple sans force face à des adversaires mieux aguerris que lui, voyez-vous. Donc cette période d'Ichabod, période difficile de confusion, va être donc un moment terrible pour ce peuple. Mais heureusement, ce peuple a eu un sursaut. Ce peuple a pris conscience de son état de culpabilité aux yeux de Dieu. Ce peuple a compris que toute cette humiliation qui était son lot quotidien, toute cette confusion qui régnait, eh bien, toute cette angoisse, cette anxiété qui était, eh bien, leur partage, tout cela, mes amis, était la conséquence, je dirais, évidente, un corollaire du fait que, eh bien, l'arche du Seigneur qui symbolisait sa présence n'était plus au milieu d'Israël. C'est lui qui faisait leur poids. C'est lui qui était, leur force étant partie, eh bien, Israël se retrouvait sans force, semblable à une plume ou à une feuille morte que n'importe quel vent emporterait vers des destinations inconnues. Ichabod. Et ensuite Ebenezer. Deux périodes, deux moments, deux expériences, deux situations, mes amis, dans lesquelles chacun de nous peut se trouver ou se retrouver, car il en sera ainsi jusqu'à ce que nous quittions ce corps et que nous entrions dans la gloire. Il en sera ainsi, puisque la vie est ainsi faite. Tant que nous serons sur cette terre, mes amis, nous aurons affaire à toutes sortes de choses. Nous aurons à combattre contre la chair, à combattre contre nos adversaires, à combattre contre ce monde, mes amis, avec ses antivaleurs. D'une manière ou d'une autre, mes amis, nous arrivera, soit consciemment, à cause de choix que nous aurons faits, à cause de des décisions que nous aurons prises, eh bien, consciemment, nous entrerons dans cette période de confusion, dans cette période de trouble que nous appelons Ichabod, période d'humiliation, période, mes amis, où nous sommes comme des vers de terre, à la merci de n'importe quel adversaire, voyez-vous. Donc, c'est une période très difficile, mais nous pouvons nous retrouver dans cette situation, non pas parce que nous aurions fait des mauvais choix qui nous auraient conduit dans cette espèce de tunnel ou de trou noir, mais il nous arrivera, malgré notre consécration, malgré notre fidélité, plutôt notre dévouement au Seigneur, malgré notre amour pour Dieu, il nous arrivera que nous nous retrouvions dans cette situation Ichabod. Dans des moments où nous aurons l'impression que tout est noir autour de nous, que le ciel est désormais fermé, qu'il n'y a plus personne qui s'intéresse à nous. Et dans cette période-là, mes amis, qu'est-ce que le Seigneur attend de chacun de nous? Alléluia. Comme je l'ai dit, et nous l'avons vu la fois dernière, Israël a eu ce sursaut, Israël a compris, et Israël s'est lancé dans un processus de réconciliation avec Dieu, processus qui a commencé d'abord et avant tout par cette prise de conscience de son état de culpabilité aux yeux de Dieu. Israël a mené une réflexion sur lui et a compris que tant qu'Israël, tant que ce peuple se trouvait dans cette situation-là, rien ne pouvait changer. Ils sont revenus au Seigneur, ils se sont repentis, ils se sont réconciliés avec Dieu, ils ont crié à lui, c'est alors que celui qui s'appelle fidèle et véritable est venu à leur secours. Alléluia. Il les a fait sortir de cette période, de cette situation Ichabod, pour le faire entrer dans cette période d'Ebenezer, où il se révèle comme étant la pierre du secours. Alléluia. Où il nous fait entrer dans ce temps de délivrance, dans ce temps, mes amis, de réhabilitation, dans ce temps où nous retrouvons tout ce que nous avions perdu, alors que nous passions par cette période de Ichabod. Qu'est-ce que Dieu attend de chacun de nous? Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui très rapidement, et ce à partir de l'expérience de certains personnages de la parole de Dieu, des hommes et des femmes, en particulier des hommes évidemment, qui sont passés par cette période de Ichabod, voir ensemble comment ils s'en sont sortis, et encourager chacun de nous qui passe par ce temps-là, voyez-vous, mais aussi mettre en garde celui qui ne passe pas encore par ce temps-là, que lorsque le moment arrivera de passer par ce temps de trouble et de confusion, eh bien, que nous sachions ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu attend de chacun de nous lorsque nous sommes dans cette situation que nous appelons Ichabod? Dans cette situation où nous versons des larmes, nous sommes constamment humiliés, où nous avons perdu tout notre honneur, toute notre dignité. Nous n'avons plus de valeur aux yeux des gens, parce que celui qui faisait notre valeur, celui qui était avec nous, qui nous environnait de sa gloire, de sa kabod, eh bien, celui-là, pour une raison ou pour une autre, a levé simplement sa main et nous nous retrouvons presque seuls. Eh bien, ce qu'il attend de chacun de nous, dans cette période-là, c'est que nous continuons à lui rester fidèles. Alléluia. Que nous soyons fidèles, car c'est la fidélité envers ce Dieu-là qui amènera ce Dieu fidèle à venir nous rencontrer et à nous donner le secours dont nous avons besoin. Gloire au Seigneur. La fidélité. Encore la fidélité et toujours la fidélité. Mes amis, regardez autour de vous et vous allez vous rendre compte que la fidélité est une valeur de plus en plus rarissime. Regardez combien de couples détruits Parce qu'il y a un qui est allé à l'encontre de la parole qu'il avait donnée ou qu'il avait faite à l'autre. Il s'est rendu infidèle. Il a brisé l'engagement. Regardez dans les amitiés, combien souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont été trahis par un ami. Voyez-vous, un ami qui un jour a tourné le dos et il est allé et l'autre est resté trahi, blessé, humilié. Oui, la fidélité est de plus en plus rare. C'est une perle, mes amis, que nous trouvons de moins en moins dans nos sociétés d'aujourd'hui. La parole de Dieu déclare dans Proverbe 20, verset 6, que beaucoup de gens proclament leur bienveillance. Voyez-vous? Beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Voyez-vous? Il est beaucoup plus facile de mettre en évidence sa bienveillance, sa bonté, sa générosité. Voyez-vous? Il est beaucoup plus facile de mettre en évidence tout ce côté positif, être bon, être toujours prêt à aider, être toujours prêt à faire du bien, voyez-vous. Mais la Bible dit, oui, beaucoup peuvent proclamer leur bonté, leur bienveillance. Beaucoup peuvent mettre en évidence tout ce qu'ils ont fait pour les autres. Mais un homme fidèle, une femme fidèle, qui la trouvera, qui le trouvera? Voyez-vous, mes amis, ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est que nous fassions preuve, nous fassions montre de fidélité dans cette période Ichabod. Car c'est notre fidélité, notre loyauté envers le Seigneur, notre constance dans notre attachement à lui, qui finira tôt ou tard, peu importe le temps que durera cette période Ichabod, qui finira, mes amis, par nous amener jusqu'à ce Dieu fidèle, et amener ce Dieu fidèle jusqu'à nous, et qu'enfin, nous sortions de ce temps d'humiliation, et que nous entrions dans cette expérience d'Ebenezer, la pierre du secours. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors là, mes amis, nous pourrions proclamer haut et fort que jusqu'ici, jusque maintenant, ce Dieu-là nous a secourus. Car lorsqu'il se lève de son trône et qu'il se dirige vers nous, mes amis, pour nous secourir, personne ne peut l'empêcher. Alléluia. Personne ne peut se dresser devant lui. Il reste et demeure un guerrier redoutable. Alléluia. Il est celui, lorsqu'il se lève et qu'il commence à marcher, la terre tremble. L'univers tremble. Alléluia. Et nos adversaires, avant même qu'il arrive, eh bien, nous tournent le dos et s'enfuient. Mais ce qui l'amène à agir de cette manière, ce qui va l'amener à se lever de son trône, c'est bien notre fidélité, mes amis, notre loyauté, notre constance, notre stabilité, alors que nous passons par ces tunnels ténébreux, par ces tunnels de confusion, ces tunnels d'humiliation. Lorsque nous trouvons dans cette période où nous perdons toute notre dignité, toute notre valeur, quand les gens nous regardent et se moquent de nous. Ah tiens, ah mais c'est lui qui fut le directeur. Ah oui, c'est lui. Ah, c'est pas vrai. Il n'a même plus de cheveux. Eh oui. Il arrive qu'en étant de plus en plus dressé, qu'on perde ses cheveux. Oui ou non? Voyez-vous, mes amis, des moments pareils, eh bien, peuvent nous arriver. C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas. Ne te moque jamais, mes amis, de ce qui est arrivé à l'autre. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter pour toi. Oui, tu es dans le bonheur. Eh bien, sache que ce n'est pas parce que tu t'appelles tel. Parce que tu fais partie d'une longue généalogie. Pas du tout. Si tu as le bonheur, si tu es ce que tu es, c'est simplement parce qu'il t'a accordé sa grâce. Même ceux qui ne le connaissent pas sont au bénéfice de sa grâce. Car ce Dieu-là aime l'humanité, et pour l'humanité, il est venu lui-même dans un corps semblable au nôtre, pour nous sauver. Samuel, le prophète, homme de Dieu, un homme qui a reçu un appel tout particulier. Rares sont ceux qui ont reçu une vocation comme cet homme l'a reçu. Il était encore jeune lorsque le Seigneur l'a appelé. Un homme qui va résister dans cette période Ichabod, car l'apostasie d'Israël, le mépris d'Israël vis-à-vis du Seigneur, son rejet de sa parole, va aussi avoir des conséquences sur cet homme. Mais Samuel va traverser cette période Ichabod, mes amis, en étant fidèle au Seigneur, alléluia, en étant fidèle à celui qu'il avait appelé. Comme nous l'avons vu la fois dernière, et comme vous pouvez vous en rendre compte, si vous vous lancez dans une lecture de la parole de Dieu qui vous conduit du chapitre 4 jusqu'au chapitre 6, vous verrez que cet homme a disparu de la scène biblique. Cet homme, mes amis, a été oublié. Vous avez l'impression que les spots célestes, les lanternes s'étaient éteintes sur son ministère. On ne parle plus de lui. Voyez-vous? Ces silences radio sur sa vie, ces silences radio sur son ministère, mais cela ne veut pas dire que cet homme avait arrêté de servir le Seigneur. Il a continué à le servir dans l'anonymat, mes amis. Et quelquefois le Seigneur nous fait passer, nous serviteurs, par des moments pareils, pour nous montrer que ce n'est pas parce que nous passons devant que nous devenons supérieurs aux autres. Que lorsque nous passons devant, nous avons une grande responsabilité. Que nous passions devant, que nous soyons constamment sur la scène, eh bien, du royaume de Dieu, ou que nous soyons comme dans une grotte, peu importe. Ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est que nous lui restions fidèles. Gloire au Seigneur. Alléluia. Eh bien, ce temps où le prophète a exercé son ministère dans l'anonymat, dans l'oubli, quasiment oublié de tous, eh bien, il a continué à le servir. Il ne s'est jamais découragé. Voyez-vous? Voilà ce que Dieu attend de chacun de nous. Mon frère et ma sœur, persévère. Voyez-vous? Reste fidèle! Ne te laisse pas impressionner par ce qu'il y a autour de toi. Voyez-vous? N'envie pas le méchant à tes côtés qui va de prospérité en prospérité comme nous l'avons vu. Reste fidèle au Seigneur. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Ne cherche pas, mes amis, à vivre ta vie par procuration. N'essaye pas de fonder ta foi sur le témoignage de ce que Dieu fait dans la vie des autres. Reste fidèle à lui. Alors, tu entreras de plein pied dans cette période d'Ébénézer. Et tu retrouveras tout ce que tu auras perdu. Car lorsqu'on entre dans cette période, mes amis, eh bien, on perd tout, même ses plumes. Et on ne sait plus quoi faire, voyez-vous. Mais tant qu'on est avec lui, il continuera à nous entourer, alléluia, de son ombre. Dieu attend de chacun de nous que nous lui restions fidèles. C'est le message qu'il a donné à l'église de Smyrne, une des églises que nous trouvons dans les livres de l'Apocalypse. Au chapitre 2 de ce livre, eh bien verset 10, le Seigneur dit ceci, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne des vies. » Aujourd'hui, plus personne ne veut prendre sa croix. Aujourd'hui, mes amis, il suffit qu'il y ait une petite tempête, c'est fini. On baisse le bras. On va essayer de trouver un prophète qui pourrait vous donner une recette miracle. Voyez-vous? Aujourd'hui, pour peu, eh bien, qu'on passe par un désert financier, eh bien, c'est fini. Dieu m'a oublié, on est prêt à aller se compromettre. En allant consulter des gens qui, hélas, distraient les autres, les manipulent par des soi-disant prodiges. Ce n'est pas étonnant que quelqu'un fasse des prodiges. Que quelqu'un fasse un miracle, ce n'est pas la preuve que le Seigneur est avec lui. Voyez-vous? L'impie dont il est question dans la parole de Dieu, c'est-à-dire cet homme qui viendra sur cette terre, avant que Jésus revienne, eh bien, cet impie-là verra le jour par la volonté de Satan. Et Satan lui donnera beaucoup de pouvoir. C'est la Bible qui le dit. Il accomplira beaucoup de merveilles. Il accomplira beaucoup de prodiges. Mais cet esprit satanique travaille déjà aujourd'hui. Donc, que quelqu'un fasse des miracles, qu'il multiplie l'argent, qu'il ait 200 tuples, tout ce que vous voulez, ce n'est pas la preuve suffisante que Dieu est là. Essayons de réfléchir. On reconnaît l'arbre par ses fruits. On ne peut pas être utilisé par le Seigneur puissamment, être en même temps imbu de soi-même. se mettre tout le temps en évidence et avoir tout le temps le regard de gens tournés vers soi. Pas du tout. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Ichabod, où est la gloire? Rappelez-vous ce qu'on a vu. Cette expression Ichabod, eh bien, peut avoir un sens affirmatif, un constat. La gloire est bannie. La gloire est bannie de la vie. Voyez-vous, la gloire est partie. Il n'y a pas de gloire. C'est un constat. Parce qu'on a mal fait. Voyez-vous, parce qu'on, maintenant on se rend compte que si on est ce qu'on est aujourd'hui, si on est dans cette vallée de l'humiliation, si on est dans ce trou noir, dans cette période Ichabod, c'est simplement parce qu'on a fait de mauvais choix. Voyez-vous? Mais Ichabod peut aussi être interprété comme une interrogation, comme un questionnement. Où est la gloire? Et Samuel s'est posé cette question. Qu'on se pose des questions, mes amis, cela est évident. Voyez-vous, le questionnement fait partie de la nature rationnelle de l'homme. Il n'y a que la bête qui ne se pose jamais de questions. Voyez-vous, le chien se réveille, eh bien, il ne sait pas ce qu'il va manger, mais il sait au moins une chose, qu'il va trouver un os quelque part. Voyez. Mais l'homme se pose des questions, c'est normal. Nous devrions nous poser des questions. Ne soyons pas de ceux, voyez-vous, et que la vie conduit. Voyez-vous, ne soyons pas toujours membre d'un troupeau quelconque. Mais il faut que nous arrivions nous-mêmes à conduire la vie. Et ne pas laisser la vie nous imposer ce choix. Sois fidèle. Où est la gloire? Samuel s'est posé cette question pendant 20 ans. Vous vous rendez compte? 20 ans, Ichabod. 20 ans d'anonymat. 20 ans d'humiliation. 20 ans où on ne parle pas de lui. De cet homme de Dieu extraordinaire. 20 ans, mes amis, où il ne passe pas à la télé, où on n'entend pas ses prédications à la radio. 20 ans. Aujourd'hui, on pourrait dire 20 ans de calvaire. Hein? Mais Samuel, et plus tard, Israël, après sa repentance, vont expérimenter la fidélité de Dieu à Mitzpah. Alléluia. Là, le Seigneur va se révéler comme étant le Dieu véritable, le Dieu fidèle, qui vient à la rencontre de tout homme qui se repent, qui reconnaît que cette période Ichabod a été la conséquence de son péché, a été la conséquence de sa désobéissance, a été la conséquence de choix faits sans s'être référé au préalable au Seigneur. Et là, il le conduit à Ebenezer, la pierre du secours. Et finalement, et Samuel et Israël vont proclamer cette parole extraordinaire, jusqu'ici le Seigneur nous a secouru, alléluia. Mes amis, Dieu est fidèle. Et dans sa fidélité, il aimerait se révéler à chacun de nous, à tous ceux qui passent par cette période de Ichabod, comme étant la pierre du secours, comme étant le véritable Ebenezer. Mais pour autant que nous le restions fidèles, alléluia. Le problème se situe à ce niveau-là. Dans Matthieu 25, nous trouvons là la parabole des talents. Voyez, talent pas dans le sens d'aptitude à accomplir quelque chose, hein. Une aptitude spéciale, hein, à accomplir quelque chose. Une capacité quelconque à accomplir un exploit ou quelque chose. Ainsi, on parlera d'un artiste comme ayant un talent ou un chanteur comme nos choristes ici. Ils ont des talents extraordinaires, oui ou non? Eh bien, le mot talent ici n'a pas ce sens-là. Ici, le mot talent doit être pris dans le sens d'une unité monétaire. Un talent représentait une somme d'argent beaucoup, beaucoup plus importante, voyez-vous. Donc, il nous est dit qu'un homme en partance pour un voyage appelle ses serviteurs et leur confie ses biens. Il donne à l'un 5 talents, somme importante d'argent. Et puis il donne à l'autre 2 talents, et puis à un troisième, 1 seul talent. Et puis il s'en va. Eh bien, ceux qui ont reçu les talents, qui ont reçu cet argent important, eh bien, vont réagir différemment. Il nous est dit que le premier, qui avait reçu 5 talents, va donc le faire valoir. Il va le fructifier, alléluia. Le deuxième aussi. Et puis longtemps après, le maître revient, voyez-vous. Et il appelle ses serviteurs afin qu'ils lui rendent des comptes quant à la manière dont ils auront géré ces talents-là. Qu'est-ce qu'ils en avaient fait? Voyez? Le premier arrive, il dit, Seigneur, tu m'as laissé 5 talents. Voilà ce que j'en ai fait. J'en ai gagné 5 autres. Alléluia. Le deuxième arrive. Seigneur, tu m'as donné 5 talents. Plutôt 2 talents. J'en ai gagné d'autres. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur leur dit, mes amis? Bien, bon et fidèle serviteur. Voyez-vous? Et il ajoute, tu as été fidèle en peu de choses. Alors qu'il s'adresse à chacun de ses serviteurs, car chacun a comparu seul. Voyez-vous? Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Mes amis, le serviteur a été jugé non pas en fonction de sa bonté, non pas en fonction de son sérieux ou que sais-je, mais le serviteur a été jugé à cause de sa fidélité. La fidélité. Voilà quelque chose, mes amis, qui devrait faire partie de notre vie. Fidélité en politique, combien ont été dessus par ceux-là même avec qui ils mangeaient. Ceux-là même qu'ils ont pris. Ils ont été leurs mentors, leurs parrains. Mais un jour, il y en a un qui sort du lot, un petit renard. Vous voyez? Il a fini par faire un croque en jambe au parrain, au mentor. Et le mentor se retrouve au sol. Et le petit monte sur le trône. Voyez? La fidélité. Dans les amitiés. La fidélité dans le couple. La fidélité, mes amis, un peu partout. Dans nos responsabilités. C'est quelque chose que nous devrions rechercher absolument. Car Dieu nous récompensera en fonction de notre fidélité. Bon et fidèle serviteur, a-t-il dit au serviteur. Puisque tu as été fidèle dans peu de choses, pour lui c'est peu de choses, qui te donne 5 talents, qui te donne 10 talents, 100 talents, c'est peu de choses. Puisque tu as été fidèle dans ce peu de choses-là, écoute, je t'établirai sur de choses beaucoup plus grandes. Entre désormais dans la joie de ton maître. Alléluia. Mes amis, ce que Dieu attend de nous dans cette période d'Ichabod, c'est que nous puissions lui rester fidèles. Peu importe l'état dans comment, ce qui est arrivé. Tu n'as peut-être rien fait, mais Samuel non plus n'avait rien fait, oui ou non? C'est le peuple d'Israël, mais ils se retrouvaient ensemble dans ce trou noir-là. Tu n'as peut-être rien fait. Tu ne comprends pas cette mise à l'écart. Tu as travaillé de tout ton cœur, loyal. Voyez-vous, tu as travaillé avec sérieux, tu as contribué à l'épanouissement de l'entreprise, tu as assumé ta responsabilité politique ou que sais-je, avec consécration, avec abnégation, et puis tout d'un coup le couperet tombe, sans savoir pourquoi, te voilà sans rien, et tu deviens la risée de tout le monde. Vous voyez, tu perds tout, et ça dure encore. Oui. Ça dure encore, tu as tout perdu, ton honneur. Combien de gens ont été salis? Simplement parce qu'on a voulu prendre leur place. On a inventé toute une histoire. Et ils ont été mouillés. Il y en a qui ont perdu même de hautes responsabilités. Mes amis, dans ce monde, la trahison est considérée comme une valeur. Voyez-vous? Mais Dieu nous appelle à rester fidèles. C'est peut-être ton cas. Ça fait longtemps que ça dure. Tu attends cette réhabilitation. Tu attends de retrouver ton honneur. Écoute-moi bien, mon frère et ma sœur. Tiens bon. Reste fidèle. Alléluia. Peu importe le temps que durera cette période Ichabod. Si tu restes fidèle, tôt ou tard, tu sortiras de là. Tu retrouveras ton honneur. Tu sortiras de là. Tu récupéreras tout ce que tu auras perdu. Tu sortiras de là et tes adversaires seront le premier à se mettre à côté, à se dire, assurément son Dieu est vivant. Alléluia. Lorsque Dieu agrée la voix de quelqu'un, d'un homme, d'une femme, Que fait-il? Il dispose favorablement même à son égard, même ses adversaires, même ses ennemis, ceux qui auront été à la base de ton humiliation, seront le premier. C'est pourquoi ne souhaite jamais leur mort. Laisse-les vivants, qu'ils voient, quand tu seras habilité, qu'ils voient, qu'ils contemplent, qu'ils se rendent compte que Jésus, en fin de compte, c'est à lui que revient le dernier mot. Amen. Gloire à Dieu. Samuel, il a tout expérimenté. Soyons fidèles. Et le fidèle et véritable finira par nous manifester sa fidélité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lui qui est le guerrier redoutable. Avant de terminer, cas de David. Oh David. Un homme selon le cœur de Dieu, oui ou non? David. Un homme qui a laissé un grand témoignage dans l'histoire de l'humanité, car sa vie reste là au cœur de la parole de Dieu, de la révélation de Dieu à l'humanité. Il nous a laissé des psaumes qui sont une source d'inspiration extraordinaire. Sa vie est une leçon pour beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Cet homme a tout connu. Il est parti du néant. Voyez-vous, personne ne pouvait miser sur lui. Que le fils, ce petit garçon d'Isaïe, finirait un jour par devenir un des grands rois d'Israël et par devenir même, eh bien, la figure du Messie, du roi Messie. David a tout connu depuis son bas âge. Il a connu des moments de gloire, des moments où la cabote de Dieu l'environnait, des moments où la gloire de Dieu était avec lui, des moments de victoire. Tant que la gloire du Seigneur l'environnait, rien ne pouvait lui résister, même pas le lion ou l'ours. Il a fait connaître, lorsqu'il est allé sur le champ de bataille, où le peuple de Dieu, sous la conduite de Saül, eh bien, tremblait devant ces Philistins, et en particulier devant ce géant Goliath. Mais David a partagé son témoignage. Il a dit, laissez-moi, je sais qui est avec moi? Je ne suis qu'un jeune homme, sans aucune expérience guerrière. Mais celui qui est avec moi, c'est lui le véritable guerrier. Tant que je suis avec lui, aucun ennemi ne tiendra debout. Eh oui. Face au lion, face à l'ours, face à Goliath, ce géant philistin, David a connu des moments de gloire. Voyez-vous, victoire sur différents peuples. Lisez les livres de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, chroniques, vous allez, les chroniques des rois d'Israël, vous allez voir comment cet homme a marqué l'histoire d'Israël, au point où, quand Israël est redevenu une nation, ils ont opté pour leur emblème, ce qu'on appelle l'étoile de David. David, il a connu deux sacres. Il a d'abord été sacré comme roi sur Juda, et puis ensuite comme roi sur tout Israël. D'abord sur deux tribus, Benjamin et puis sa propre tribu, à savoir la tribu de Juda. Donc sur le deux, Juda, et puis ensuite sur l'ensemble du peuple de Dieu, c'est-à-dire sur le 12 tribus d'Israël qu'il va rassembler et faire de ces 12 tribus une nation puissante. Gloire à Dieu. Mais David a aussi connu des moments Ichabod, des moments, mes amis, d'humiliation, des moments de trahison, des moments de défaite, des moments d'angoisse, des moments où David, mes amis, se posait toutes sortes de questions. Ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu, c'est qu'elle nous présente les hommes, eh bien, tous ces héros de la foi, dans leur humanité, avec leur faiblesse. La Bible n'exagère pas, ne dit pas que David, à un moment, il a fait ça et puis, il a fait l'expérience de la lévitation, et puis il était au-dessus de... Non, pas du tout. Voyez. Donc, il a connu tout ça, des défaites, des déboires, morales ou autres. Il a connu l'humiliation, la trahison, la révolte. Pensez, mes amis, à la révolte de son propre fils Absalom, qui a comploté contre lui, qui a fini par chasser David de son trône. Vous vous rendez compte? Son propre fils, sa chair, oui ou non? Oui, une partie de lui-même. C'est pas quelqu'un qui est venu d'ailleurs. Voyez? Il y a des moments comme ça, c'est toujours celui qui est avec nous là. C'est lui avec qui nous mangeons. Alléluia. C'est lui à qui on a tout donné et dit, bon, tu es intelligent, etc., vas-y. Mais qui un jour... Il y a le sucre ici. C'est comme ça que ça se passe. Et qui va faire tout pour nous trahir. Voyez? Donc, il est chassé du trône. Lui, David, il est humilié, mes amis. Le roi quitte son trône parce que son fils s'est rebellé contre lui, s'est révolté contre lui. Il a chassé du trône, il s'en est en emparé. Voyez? David humilié va, mes amis, franchir ce qu'on appelle la vallée du Cédron ou du Kédron. C'est cette vallée qui sépare la ville de Jérusalem du mont des Oliviers. C'est-à-dire, si vous quittez la ville de Jérusalem pour aller vers le mont des Oliviers, vous passez par cette vallée où, pour utiliser le mot utilisé dans le Nouveau Testament, eh bien, le ravin du Cédron ou du Kédron. David, mes amis, a franchi la vallée du Cédron dans l'humiliation. Voyez-vous? Eh bien, il escalade le mont des Oliviers, écoutez-moi bien, en pleurant. Lui, le grand roi, la tête couverte, non pas avec la couronne de roi, mais couverte d'humiliation. C'est un turban, les gens mettaient lorsqu'il y avait un deuil. Il est humilié. Non seulement il pleure, non seulement, mes amis, il a la tête couverte, mais la Bible nous dit qu'il marche nu-pied. Vous vous rendez compte? Le grand roi, il se retrouve pieds nus, hein, en route vers le lieu, vers le mont des Oliviers. Ce qui est extraordinaire, c'est que beaucoup plus tard, beaucoup de siècles plus tard, Jésus prendra le même chemin avec ses disciples. Alléluia! C'est extraordinaire la parole de Dieu. Dans Jean 18, quand le Seigneur commence la passion, eh bien, il prend ses disciples. Et David, il avait ses fidèles à lui, qui l'ont accompagné dans cette humiliation, pieds nus, la tête couverte, les larmes. Et Jésus prendra le même chemin. Il descendra par la vallée du Cédron. Il escaladera le mont des Oliviers. Et là, dans le mont des Oliviers, il sera trahi. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Donc humilié. Et puis, il y a eu sa fuite devant Saül, n'est-ce pas? Le roi Saül, qui voyait en lui un adversaire, va chercher à le liquider, va chercher comment le tuer, parce qu'il voyait que ce petit commençait à lui faire de l'ombre. Sa fuite devant Saül, qui cherchait à le tuer. Et dans sa fuite, écoutez-moi bien, il arrive dans une ville de Philistins, à Gath, qui était donc dirigée par le roi Achish. Et quand il arrive là-bas, le grand David, qui a terrassé l'ours, le grand David qui a terrassé le lion, en face d'un roi païen, David a peur. Voyez, quelle période. Il a peur. Voyez, lui que l'on chantait, écoutez bien, il y avait un chant en Israël qui disait ceci: Saül a frappé ses 1000, David en a frappé combien? Ses 10 000. C'était une manière de dire, David c'est le héros, David c'est le grand guerrier. Si Saül a fait tomber 1000, lui il en a fait combien? 10 000. Eh bien, c'est cet homme-là, en face d'un roi païen, humilié, eh bien, qui a peur. Peur. Et là, il s'est fait passer pour un fou. Oui, oui. David s'est fait passer pour un fou. Pour un faux malade. Il y a des situations où les gens, pour s'en sortir, commencent à inventer qu'ils sont malades. David, je n'invente pas l'histoire, hein. Vous pouvez lire ça dans 1 Samuel 21. Je n'invente pas. David a commencé à faire le fou. À faire des extravagances devant les Philistins. Vous voyez? À faire le fou. Il laisse couler sa salive sur la barbe. C'est la Bible qui le dit. Hein? Avec sa belle barbe qui séduisait les femmes et tout ça. Puisqu'il en a, il en a récolté. Hein? Il en a conquis celui-là. Même les femmes de ses collaborateurs. C'était comme une remorque. Bref, cet homme séducteur, il se fait passer pour un fou, il laisse couler la salive sur la barbe. Vous pouvez vous imaginer un peu. Il commence à faire des gestes bizarres et tout ça, de fou, de folie.
Au point où le roi Achish dit à ses hommes, il dit, mais tiens, pourquoi vous me prenez? Vous m'amenez un fou, comme s'il n'y avait pas de fou ici à Gath. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec la folie de cet homme? Le roi David, hein? Mes amis, il arrive des fois que dans la période Ichabod, on regarde à gauche, pas de secours. On regarde à droite, personne. Et comment attirer l'attention des gens? Commence à faire le faux malade. Oh, n'a pas eu foi, hein? Je meurs. Ichabod! Il y a des situations comme ça. C'est pourquoi ne te moque jamais de qui que ce soit. Tu risques un jour de simuler la folie. Tu commences à laisser la barbe pousser. Tu ne te peignes plus les cheveux. Tout simplement pour fuir le problème. Tiens bon. Comment est-ce possible? Eh oui. C'est le grand David. Hein? Mais quand il passe par Ichabod, eh bien, c'est autre chose. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à travers cette période Ichabod, l'homme est resté fidèle envers le Seigneur. Et sa fidélité va l'amener à expérimenter la fidélité de Dieu, du Dieu qui se révèle comme étant la pierre du secours. Alléluia. Il a fini aussi par dire, jusqu'ici, le Seigneur m'a... S'il y a une parole, je terminerai par là, s'il y a une parole qui résume la vie de David, c'est celle que nous trouvons dans sa propre bouche, parole qu'il a proclamée dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 26, parole qu'il adresse au Seigneur. Et je voudrais laisser cette parole à chacun de nous. Écoutez ce qu'il dit au Seigneur. Tout cela après que le Seigneur l'ait délivré de tous ses adversaires. Alléluia. Après que le Seigneur l'ait délivré de tout, même de sa fausse folie là. Quelle humiliation. Eh bien, écoutez ce qu'il a dit. Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Alléluia. Avec celui qui est fidèle, Dieu finit toujours par se montrer fidèle. Et quand tu poursuis ta marche dans ces périodes de difficulté en restant fidèle au Seigneur, eh bien, mon frère et ma sœur, tôt ou tard, Ichabod deviendra Ebenezer. Alléluia. Et tu pourras proclamer que jusqu'ici, le Seigneur m'a secouru. Car avec celui qui est fidèle, le Seigneur est toujours fidèle. Le Seigneur est absolument fidèle. Avec celui qui est fidèle, le Seigneur se montre toujours fidèle. Voilà, mes amis, ce que Dieu attend de chacun de nous dans cette période Ichabod. Alors, je vais demander à chacun de nous d'incliner sa tête dans la prière. Et que chacun s'examine à la lumière de cette parole. Tu te trouves peut-être dans la situation de David. Tu as connu des moments de gloire. Tu as connu des moments d'élévation. Tu as connu des moments de prospérité à tous égards. Voyez-vous? Et puis là c'est le passage du désert. Là, mes amis, ou mon ami, c'est Ichabod. Te voilà de plus en plus humilié. De plus en plus trahi par des gens qui t'étaient proches, dont certains ont été au bénéfice de tes soins. Certains, tu as payé peut-être des études, tu as tout fait, et aujourd'hui ils sont le premier à cracher sur toi. Et tu tournes en rond, tu te sens humilié. Au lieu de chercher un bouc émissaire, au lieu de chercher la cause de ton humiliation ailleurs, ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu lui restes fidèle. Lève les yeux vers lui. David a tout connu jusqu'à ce qu'il arrive à la fin et qu'il dise oui. Dieu se montre toujours fidèle envers celui qui lui est fidèle. Alors si tel est ton cas, tu peux lever simplement la main là où tu es et je vais prier pour toi. Alléluia. Merci pour les mains qui se lèvent. C'est une période d'humiliation. C'est une période difficile. Mais le Seigneur est là. Il veut passer. Le Dieu de David, il veut te manifester sa fidélité, sa puissance, te faire sortir de cette période Ichabod pour te faire entrer dans la période Ebenezer où lui deviendra ton secours. Et quand lui est ton secours, personne ne pourra t'inquiéter. Et même tes adversaires seront le premier à reconnaître que ton Dieu est véritablement Dieu. Que ton Dieu est assurément Dieu. Père très saint, je voudrais te remercier pour ta parole. Tu vois toutes ces mains levées. des personnes, Seigneur, qui passent par des temps, des moments d'humiliation. Seigneur, des moments, ô Dieu, où leur honneur, leur dignité est traînée dans la boue, dans la poussière. Seigneur, trahis par ceux qui leur étaient proches. Ils ont tout perdu pour certains, Seigneur. Mais avec toi, il y a moyen d'être réhabilité. Avec toi, il y a moyen de retrouver sa dignité. Avec toi, il y a moyen de retrouver, ô Dieu, tout ce qu'on avait, tout ce qu'on a perdu. C'est pourquoi je te prie de visiter ces personnes, mais aussi ceux qui nous suivent, Seigneur, au travers, ô Dieu, de la télévision, de la radio. Je te prie de poser ta main sur tous ceux, ô Seigneur, qui se sont levés, tous ceux qui ont levé leurs mains, afin que tu les visites, que tu les fasses sortir de cette période d'Ichabod pour le faire entrer dans la période d'Ebenezer. Car avec toi, tout est possible. Tu as la capacité de changer la nuit en jour par ta seule parole. De changer la défaite en victoire par ta seule parole. Dis un mot et leur situation, Seigneur, changera du tout au tout. Merci de les bénir et de les aider dans cette période. Qu'ils continuent à te faire confiance. S'il y en a qui se sont découragés, qu'aujourd'hui, Seigneur, et par ce message, que tu les encourages, qu'ils sachent que le Dieu Ebenezer n'est jamais loin de tous ceux qui lui sont fidèles. Que tôt ou tard, tu te lèveras de ton trône et tu viendras à leur secours. Et ils pourront alors proclamer, comme Samuel l'a fait après 20 ans, comme Israël a fait après 20 ans, 20 ans de ténèbres, 20 ans d'humiliation, 20 ans de privation, 20 ans de rejet, de revers, ils pourront alors proclamer, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Oh, merci Maître, merci Jésus, merci pour tout. Nous bénissons ton nom pour la grâce que nous avons de compter sur toi, quel que soit notre besoin et notre contexte. Merci Maître, merci Jésus. Nous voulons aussi, Seigneur, alors que nous sommes là, recueillis devant toi, te demander de bénir ce moment consacré aux offrandes et aux dîmes. Ô Père, nous bénissons ton nom pour cette grâce que nous avons de soutenir ton œuvre. Seigneur, tout appartient. Tu n'as pas besoin de notre argent, de nos dons ou même de nos dîmes, Seigneur. Mais cependant, ce que tu attends de chacun de nous, c'est que nous te manifestions de la fidélité en te manifestant de la reconnaissance. Bénis cet argent. Bénis ce panier, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.